8e épisode, la cave de bronze. Chapitre 1er, le pendu. Levés avant le jour, trois cavaliers traversaient lentement une clairière de l'immense forêt vierge qui couvre encore presque entièrement cette partie du Mexique qu'on appelle les terres chaudes. Le soleil allait se lever. Les étoiles pâlissaient une à une, comme effacées par une main invisible. Vers l'orient, le ciel, à demi voilé par la brume qui montait d'un étang bordé de palmiers, était d'une délicieuse couleur d'argent, glacée d'azur, teintait des nuances les plus délicates de l'oranger, du mauve et du gris-perle. Un silence imposant planait sur les solitudes. Tout à coup, une brise légère rida la surface de l'étang. Les feuillages frissonnèrent avec un bruissement plaintif et doux. La forêt tout entière s'agita et frémit, et le disque de pourpre clair du soleil apparut, drapé de légers nuages de vermeil et d'or. La brume s'était dissipée. Les feuillages ruisselaient d'une rosée aussi abondante qu'une pluie. Par milliers, les oiseaux secouaient leurs ailes et s'élançaient des arbres où ils avaient passé la nuit. Des vols de corbeaux, de perroquets verts, de spatules roses, de hérons, se dispersaient dans le ciel avec mille cris discordants. Dans une savane lointaine, des taureaux sauvages faisaient entendre de longs mugissements. Laissant derrière eux l'étang peuplé de serpents d'eau, d'alligators et de tortues, les trois cavaliers suivaient un sentier ombragé, avec une inouïe luxuriance de feuillages, de fleurs et de fruits, par des poivriers aux grappes d'un rouge éclatant, des acajous, des palmiers royaux, des sapotiers et des coquetiers, au pied desquels poussaient d'inextricables buissons de mimosas épineux, de forbes et de fougères arborescentes. Ils chevauchaient avec lenteur, souvent forcés de s'ouvrir un passage à coups de machette, à travers les lianes enchevêtrées, lorsque celui qui marchait en tête, un métis mexicain coiffé d'un sombrero orné de plaques d'or et drapé dans un vaste manteau, ou zarape, retint tout à coup sa monture en poussant un cri de surprise. Les deux autres voyageurs, deux hommes de race blanche, vêtus de kakis et coiffés de casques en moelle de sureau, s'étaient rapprochés immédiatement. Ils virent alors ce qui avait provoqué le cri d'étonnement de leurs compagnons. À un tournant du sentier, celui-ci s'était trouvé brusquement nez à nez avec un pendu accroché à la maîtresse branche d'un manguier et dont les haillons se balançaient au vent du matin. Les deux blancs avaient sauté à bas de leurs chevaux, mais le Mexicain ne paraissait nullement disposé à les imiter. « Señores, » déclara-t-il gravement, « cela porte malheur de secourir un pendu. » Et il ne bougea pas. Appuyé au dossier de sa haute selle, campé sur ses vastes étriers à boîte, il s'apprêta flegmatiquement à regarder ce qu'allaient faire les deux señores. D'un coup de machette, l'un d'eux avait tranché la corde, pendant que le second, une sorte de géant, recevait le pendu dans ses bras et le déposait doucement sur le sol. « Le corps est encore tiède, » déclara le géant. « Je vais te dire immédiatement si l'on peut conserver quelque espoir, » répondit son compagnon. « La face est congestionnée, presque violette, la langue gonflée et pendante, mais cela ne prouve rien. La colonne vertébrale n'a pas été disloquée. » Le charitable cavalier avait déboutonné la chemise et la veste du pendu, et lui baignait les tempes avec l'eau de sa gourde. Puis, à l'aide d'un tube emprunté à une touffe de bambou, il insuffla de l'air dans les narines en ayant soin de tenir la bouche fermée de façon à gonfler les poumons. En appuyant ensuite à la base du thorax, il força les bronches à se dégonfler, réalisant ainsi artificiellement les mouvements de la respiration. Entre-temps, l'autre cavalier enlevait les souliers du patient et lui frictionnait vigoureusement la plante des pieds et la cheville pour forcer la circulation du sang à se rétablir. Pendant trois quarts d'heure, les sauveteurs continuèrent à appliquer le même traitement au pendu, avec une patience dont s'émerveillait leur guide, nonchalamment occupé à fumer un de ces excellents cigares de Saint-Jean de Tuxtla que les amateurs égalent au Havane. « Carayo » murmura-t-il, « il faut vraiment que ces seigneurs aient du temps à perdre. Je serais fort étonné s'ils réussissaient. » En cela, il se trompait. Le plus grand des cavaliers avait tiré de sa poche un de ces couteaux à plusieurs lames qui sont pourvus d'une mèche à saigner les chevaux. Il s'en servit pour piquer légèrement une des veines situées derrière l'oreille droite du patient, et il répéta cette opération derrière l'oreille gauche, puis à la tempe. Un sang noir gouttela d'abord lentement, puis finit par jaillir plus abondamment et plus rouge. Presque aussitôt, le pendu ouvrit les yeux et poussa un profond soupir. Il était sauvé. La respiration et la circulation avaient repris leur cours. Mais au moment où il avait ouvert les yeux, les deux cavaliers avaient jeté le même cri de surprise. « Markham ! C'est Markham !» Ils demeuraient tous deux muets de stupeur en reconnaissant dans celui qu'ils venaient d'arracher à la mort, précisément l'homme qu'ils cherchaient en vain depuis 3 semaines dans les déserts du Mexique. Le pendu ressuscité ne paraissait pas moins surpris qu'eux-mêmes de cette rencontre. Mais à sa surprise se mêlaient visiblement la peur et la confusion. Sa face, une heure auparavant violacée par la congestion, était devenue d'une pâleur livide. Ses mains tremblaient.
John Jarvis ?
Bégaya-t-il enfin. Moi-même, monsieur Markham, lui répondit-on. Charmé de vous voir revenu à l'existence. C'est une cure dont je suis véritablement fier. J'ajoute que vous êtes la personne que je désirais le plus rencontrer. Vous n'avez pas oublié, je suppose, que nous avons un compte assez sérieux à régler ensemble. À ces paroles, prononcées avec une amère ironie, Markham frissonna de tout son corps et parut sur le point de s'évanouir. John Jarvis s'en aperçut. « Je vois, monsieur Markham, dit-il, que vous n'êtes pas encore en état de discuter. Il ne faudrait pas nous faire la mauvaise plaisanterie de passer de nouveau de vie à trépas. Vous nous avez donné suffisamment de mal comme cela. » En se tournant vers son compagnon. « À quoi penses-tu, mon brave Floridor ? Tu vois bien que notre malade est loin d'être tout à fait guéri. Je suis sûr que quelques gorgées d'eau de vie de canne le remettront complètement. » Floridor haussa les épaules et obéit avec mauvaise grâce. Il fit boire Markham et banda les plaies légères qui avaient résulté de la saignée. L'ex-pendu s'était laissé faire, mais sa mine farouche, les regards de haine que dardaient ses yeux gris, montraient combien il était humilié et furieux de se trouver ainsi à la merci de ses ennemis.
« Vous auriez dû me laisser où j'étais » murmura-t-il d'une voix sourde.
« J'ai eu pitié de vous sans vous reconnaître, mais j'aurais agi de même en sachant à qui j'avais affaire. »
« Par philanthropie ?» fit Markham agressif et goguenard.
« Non.
Je m'en doute. Dites plutôt que vous aviez le vague espoir de récupérer les 2 millions de dollars que j'ai volés au banquier Robinson. Et quand cela serait ? Vous perdez votre temps. Est-ce que je serais couvert de pareilles guenilles si j'avais des banknotes ?»
Et Markham éclata d'un rire faux et strident comme le cri d'un oiseau de proie.
« Ce n'est pas toujours une raison, » répliqua John Jarvis en regardant le voleur bien en face.
« Vous croyez ? Mettez-vous bien dans l'esprit que de moi, vous n'avez rien à attendre. Vous pouvez fouiller mes haillons, vous n'y trouverez pas une piastre. J'étais dépouillé de tout. Il y a 8 jours, j'ai vendu mon brownie à des vaqueros pour un peu de nourriture. Depuis, je n'ai vécu que des fruits de la forêt. »
Il est possible que vous disiez la vérité, mais vous ne me ferez pas croire que vous ignorez où sont les banknotes.
Je le sais, mais vous ne seriez pas plus avancé si je vous le disais. Contre l'attente de Markham, John Jarvis demeura silencieux. Il les réfléchissait. Toute cette conversation avait eu lieu en anglais, au grand mécontentement du métis qui ne parlait que l'espagnol et dont la curiosité se trouvait déçue. Tout doucement, il avait rapproché son cheval.
« Que veux-tu, Bernardillo ? » lui demanda John Jarvis.
« Je désirerais savoir, fit-il avec une affectation de politesse, dont les Mexicains ont hérité des Espagnols, si les señores sont disposés à continuer leur route. Nous attendrons pour cela que la grosse chaleur soit tombée. Pour le moment, nous allons déjeuner puis faire la sieste. Pendant que nous allumerons le feu, tâche de trouver quelques gibiers dans les environs. Mais ne t'éloigne pas trop. »
« Bien, seigneur, je serai promptement de retour. Là où il y a de l'eau, le gibier est toujours abondant. »
Bernardillo fit volter son cheval avec l'élégance d'un écuyer consommé et disparut dans le sous-bois. Bientôt, on entendit crépiter coup sur coup les détonations de sa carabine. Comme beaucoup de ses compatriotes, Bernardillo était un tireur infaillible,
il s'amusait souvent à tuer des hirondelles au vol, à balles franches. Au bout d'un quart d'heure à peine, il était de retour, portant, suspendus à l'arçon de sa selle, deux de ces gros perroquets au plumage bariolé de rouge, de bleu et de jaune, que les Mexicains appellent des guacamayas, et une demi-douzaine de beaux écureuils noirs, dont la chair est exquise. Avec des feuilles sèches, Floridor avait allumé un grand feu à l'ombre d'un bombax géant, au tronc blanc et lisse. Des gobelets et de petites assiettes d'argent avaient été disposés sur la mousse verdoyante, et dans les buissons voisins, le Canadien avait cueilli des goyaves à la pulpe dorée et des mangues excellentes malgré leur parfum de térébenthine. Avec une dextérité sans pareille, Bernardillo dépouilla, pluma et vida son gibier, embourra l'intérieur de plantes aromatiques et le mit à rôtir, enfilé sur des baguettes. Markham suivait ses préparatifs avec des regards brillants de convoitise. Il était évident qu'il avait dû subir les jours précédents une diète sévère et cette partie de son récit, au moins, était exacte. Il le prouva en engloutissant avec la voracité d'un loup affamé tout ce qu'on voulut bien lui donner, y compris les indigestes tortillas de maïs offertes par Bernardillo. Pendant tout le temps, le métis s'était d'ailleurs montré plein de prévenances pour le rescaper. On en comprit bientôt la raison. « Seigneur, lui dit-il, en lui offrant gravement un cigare, voudriez-vous me permettre de prendre un bout de votre corde ? J'espère que je ne suis pas indiscret. » Markham ne savait s'il devait rire ou se fâcher. Il prit le parti d'imiter John Jarvis et Floridor, qui s'égayaient de cette requête inattendue, et donna carte blanche au métis. « Vous êtes encore assez naïf pour croire que ma corde vous portera bonheur, lui dit-il seulement. « J'en suis fermement convaincu, répliqua Bernardillo avec le plus grand sérieux, et il s'empressa d'aller prendre possession de ce qu'il regardait comme un précieux cadeau. Un moment distrait par cet incident, John Jarvis était redevenu silencieux. Markham l'observait avec inquiétude. Affaibli, sans armes, en face de trois cavaliers robustes et bien armés, l'ex-directeur de la banque de Presidio se rendait compte qu'il était entièrement à leur merci. La chaleur était devenue accablante. Les rayons du soleil, parvenus au zénith, tombaient verticalement d'un ciel embrasé. Hommes et chevaux, comme dans l'histoire de Peter Schlemihl, semblaient avoir perdu leur ombre. Un silence de mort planait sur la forêt dont les feuillages pendaient languissamment. Les corolles se fermaient. Les oiseaux-mouches, les grands papillons jaunes rayés de noir, s'étaient réfugiés au creux des buissons. Vaincus par cette atmosphère, brûlante comme la laine d'une fournaise, Bernardillo et Floridor s'étaient jetés sur leur couverture de cheval et s'étaient endormis. Markham et John Jarvis n'avaient pas cédé au sommeil. Mais malgré l'épaisseur des frondaisons qui les abritaient, et bien qu'ils demeurassent immobiles, leur front était emperlé de sueur, et une immense torpeur les accablait. Ce ne fut que par un puissant effort de volonté que le détective parvint à dompter l'envahissante somnolence. « Que voulez-vous que je fasse de vous ? » dit-il tout à coup à Markham, d'un ton plein de sévérité. « J'ai les pleins pouvoirs de M. Rappington pour demander l'extradition du voleur et de l'assassin que vous êtes. Je ne parle pas de votre fille, Miss Lillian, que vous avez réduite au désespoir et que vous ruinez, car elle s'est engagée à abandonner jusqu'au dernier cent sa fortune personnelle pour désintéresser la Mexican Mining Bank. » Profondément humilié, honteux de lui-même, Markham baissait la tête comme écrasé sous le poids de ses accusations. « Vous n'avez aucune excuse, » reprit John Jarvis avec indignation. « Vous êtes intelligent, vous êtes énergique et vous étiez riche. Votre crime n'est pas de ceux dont la misère ou l'ignorance peuvent atténuer la responsabilité. Dans ces conditions, il ne me reste qu'à remplir jusqu'au bout la mission qui m'a été confiée. Je vais vous emmener jusqu'à la côte et vous embarquer pour l'Amérique. » L'attitude et la physionomie de Markham étaient pitoyables. Ses joues creuses, envahies par une barbe grise qui n'avait pas été rasée depuis 15 jours, son teint déjà jauni par le soleil, ses yeux fiévreux dont les paupières étaient enflammées, bordés d'écarlate par l'ophtalmie, ses vêtements déchirés, le faisaient ressembler à ces vagabonds, lamentables épaves humaines, qui errent sur les quais des grandes villes maritimes. Le cercle rouge, laissé par la corde autour du cou, ajoutait encore à l'aspect sinistre du misérable. Qu'eût dit que ce loqueteux et le correct gentleman l'homme d'affaires réputé qui, quelques semaines auparavant, avait reçu M. Robinson au seuil de la banque de Presidio, n'était qu'une seule et même personne. « J'ai perdu la partie, » murmura-t-il d'une voix morne et aveuglée. « Tant pis pour moi. Je suis sous vos pieds. Écrasez-moi. » Il s'affala sur la mousse et ferma les yeux comme pour dormir. John Jarvis, qui était foncièrement généreux, le regarda longtemps en silence, mordu au cœur par un étrange sentiment où se mêlaient le mépris et la pitié. « C'est une vraie loque, » songeait-il avec une secrète irritation. « Il ne s'est même pas défendu. J'aurais été presque content qu'il m'injurie, qu'il me menace, que du moins il me propose quelque chose. Un vrai Yankee, lutte jusqu'au bout, que diable !»
Chapitre 2. La confession de Markham. Un quart d'heure s'écoula dans le silence étouffant de la forêt. Puis brusquement, la réaction qu'avait espérée le détective se produisit. Ned Markham se releva d'un bond, drapé dans ses haillons, et se campa en face de John Jarvis.
« Si vous êtes un homme, lui dit-il d'un ton résolu, vous me laisserez une chance. Cela, vous le ferez, à cause de ma fille. Est-il juste que la pauvre Liliane expie les sottises et les crimes dont elle est innocente? Je vais vous proposer quelque chose. Robinson tient certainement beaucoup plus à rentrer dans son argent qu'à me voir pendu.
C'est très probable.
Eh bien, je sais où sont les 2 millions de dollars. Je vous aiderai à les reprendre. Je ne vous dis pas que cela sera commode, mais ce n'est pas impossible.
Et quelles sont vos conditions?
Un pardon, plein et entier. Je n'ai que 40 ans. Je puis refaire ma vie.
Vous teniez à l'instant un tout autre langage. Vous laissiez à entendre que les banknotes s'étaient gardées en lieu sûr.
J'ai changé de point de vue, voilà tout, déclara froidement Markham. Vous avez tout à gagner et rien à perdre en acceptant mon offre.
Qui me prouvera que je puisse avoir confiance en vous?
Votre propre expérience des hommes? Regardez-moi. Suis-je le même qu'il y a un quart d'heure? Je me suis ressaisi. J'ai retrouvé la volonté de lutter. L'énergie et la loyauté vont de pair. Vous devez sentir que je parle sincèrement.
Étonné de ce changement d'attitude, John Jarvis eut une minute d'hésitation. Mais Markham avait parlé avec un accent de franchise si convaincant, si brutalement vrai, qu'il fut persuadé. Il y a des heures où le pire criminel ne ment pas. « Dans l'intérêt de mon ami Robinson, déclara-t-il, je ne crois pas devoir refuser ce que vous proposez. Mais c'est à l'express condition que vous ne me cacherez rien.
Je n'ai aucune raison de dissimuler. »
Je sais déjà que vous avez eu pour complice la femme qui a pris la fuite avec vous, la signora Violante Alvaredo.
Ned Markham avait changé de visage.
Violante, murmura-t-il entre ses dents.
Je me suis promis que je la tuerais. Oui, elle a été mon mauvais génie.
Il soupira douloureusement et passa la main sur son front comme pour chasser des pensées inopportunes.
Cette femme m'avait complètement affolé, reprit-il au bout d'un instant. Mon aventure est d'une désolante banalité. J'ai agi comme le dernier des naïfs.
Violante Alvaredo appartient à une ancienne famille espagnole des environs d'Orizaba, et elle est très fière de son origine. Elle répète avec orgueil qu'il y a un Alvaredo sur la liste des conquistadors que donne le vieil historien Bernal Diaz de Castillo. Elle est avec cela d'une beauté foudroyante. Grande, brune, élancée, ses traits sont d'une régularité admirable. Ses cheveux dénoués tombent jusqu'à ses pieds. Ses grands yeux de velours, tour à tour noyés de langueur ou fulgurants de passion, sont les plus beaux, les plus impérieux, les plus caressants, les plus terribles qui soient au monde. Et sa démarche harmonieuse et souple est celle d'une reine.
Quel enthousiasme! Je crains que vous ne soyez encore mal guéri.
Hélas! Murmura Ned Markham avec un soupir. Quel malheur qu'une si parfaite beauté soit unie à une perfidie, à un cynisme dont je n'ai pas vu d'exemple.
Il y a 3 mois, elle vint à Presidio et loua une villa voisine de la mienne. J'ai su plus tard qu'en agissant ainsi, elle suivait un plan froidement combiné. Comme elle l'avait deviné, dès que je l'eus vue, j'en devins amoureux fou. Je lui offris de l'épouser sans écouter les remontrances de mes amis, qui m'assurait que Violante n'était qu'une aventurière. Elle accueillit ma proposition mieux que je ne pouvais l'espérer. très féline, très enveloppante, elle ne m'opposa pas un refus formel, mais elle désirait mieux me connaître. Une première expérience qu'elle avait faite du mariage n'avait pas été heureuse. Le mari qu'elle avait épousé à 16 ans avait dissipé sa dot et l'avait abandonnée. Il était mort, heureusement, mais elle avait besoin de beaucoup réfléchir pour contracter une nouvelle union, malgré toute la sympathie que je lui inspirais. Le temps passa. Sa présence, son sourire étaient devenus pour moi un besoin aussi impérieux que la nourriture ou le sommeil. Elle avait la folie des bijoux. Les gemmes les plus coûteuses lui paraissaient des choses de première nécessité. Le mot « indispensable » revenait sans cesse dans les demandes qu'elle m'adressait avec une désinvolture superbe. « Indispensable » les colliers de perles pour faire ressortir la blancheur de sa peau, les rivières de diamants pour montrer que leurs feux étaient moins étincelants que ses beaux yeux, les rubis moins rouges que ses lèvres, et jusqu'à un diadème de saphir, indispensable, pour donner à sa fastueuse chevelure le reflet bleuté de l'aile du corbeau. Elle me remerciait à peine, et le lendemain, c'était une nouvelle fantaisie, plus onéreuse que celle de la veille. Puis il fallut des robes en harmonie avec les bijoux. On fit venir les toilettes de la Nouvelle-Orléans, de New York, de Paris même. « Cela coûte cher, » dit froidement le détective. Tout m'était égal, pourvu qu'elle fût contente. J'étais en proie au vertige. Je puisais à pleine main dans la caisse, sans vouloir songer aux conséquences. Notez que jusqu'alors, je n'avais pas obtenu la plus légère faveur. C'est à peine si elle me permettait de lui baiser la main. Si je tentais de devenir plus familier, j'étais foudroyé par un regard de reine offensée, accompagné d'une moue hautaine. Enfin, mes soins furent récompensés. C'est-à-dire que nos fiançailles furent célébrées, mais dans le plus grand mystère. Yolante avait d'excellentes raisons pour ne pas attirer sur sa personne l'attention publique. Dès lors, de nouvelles complications surgirent. La famille de la noble signora refusait son consentement. Puis Violante avait des dettes laissées par son premier mari. Sous divers prétextes, elle me demanda des sommes dont l'importance allait croissant, mais qui n'étaient, disait-elle, qu'une avance, dont les riches terrains miniers qu'elle m'apportait en dot me rembourseraient amplement. Enfin, le jour vint, où je dus avouer que je devais 300 000 $ à ma caisse. Je tremblais que cette révélation n'amenât une rupture. Il n'en fut rien. Violante me répondit, avec un beau sang-froid, que, puisque j'en étais arrivé là, je ne serais pas puni plus sévèrement pour avoir volé 2 000 000 $ que 300 000. Nous n'avions qu'à traverser le Rio del Norte pour nous trouver en sûreté au Mexique. Là, notre mariage serait célébré, et grâce à l'argent volé, je pourrais mettre en valeur les fameux terrains miniers qui constituaient la dot et qui renfermaient des gisements aurifères d'une richesse incalculable. Elle finit par me persuader, ajouta Ned Markham en rougissant. Je n'ai pas besoin de vous raconter ce que vous savez déjà. Pourquoi ? Demanda brusquement le détective. N'avez-vous pas traversé la frontière aussitôt après le vol ? C'était bien notre intention, mais il s'est produit un contretemps. L'enquête du coroner et les autres formalités m'ont retenu très tard. Les Indiens venus de la rive mexicaine s'étaient lassés d'attendre et étaient repartis. Et j'ai dû rester à Presidio toute la journée du dimanche. Ce qui a bien manqué de vous devenir fatal. C'est vrai, je n'avais que très peu d'avance sur vous. Mais j'ai hâte d'en finir avec ma misérable aventure. Une fois en sûreté, nous prîmes le train jusqu'à Mexico. Et je remarquai que Violante paraissait préoccupée. Elle n'adressait la parole à personne. Et le Panama qu'elle portait était toujours abattu sur ses yeux. J'en suis plus tard la raison. Une fois, elle m'arracha des mains un journal illustré que je m'apprêtais à lire et le lança par la portière du wagon. Et quand je lui demandai l'explication de ce geste, « Vous n'avez pas besoin de lire, me dit-elle. Cela me déplaît. Cela doit vous suffire. » Un voyageur m'apprit plus tard que l'illustré contenait les portraits de plusieurs bandits célèbres, entre autres ceux du général Pedro Estrada et de sa dévouée lieutenante, la fameuse Doña Alferez. Vous devinez, n'est-ce pas, que la Doña Alferez et Violante Alvaredo n'étaient qu'une seule et même personne. Il avait été décidé que notre mariage aurait lieu dans le magnifique domaine de l'Estancilla, que possédait ma fiancée à 5 jours de marche de la capitale, et qui occupait, assurait-elle, toute une vallée délicieusement fertile. À Mexico, nous achetâmes des chevaux, et nous nous mîmes en route, accompagnés de 4 hommes que Violante avait choisis elle-même. À mesure que nous nous éloignions de la ville, Elle reprenait toute sa gaieté et toute son arrogance. Je m'aperçus que les rares vaqueros ou indiens que nous rencontrions la saluaient avec une déférence exagérée. Elle m'expliqua effrontément que sa famille était très puissante et très populaire dans la région, et que le respect qu'on lui témoignait était tout naturel. La vérité, c'est que les passants, si respectueux, avaient grand-peur d'être détroussés. Nous fûmes obligés de faire un long détour pour éviter de traverser les places de Santa Maria, un des principaux établissements de la Mexican Mining Bank, qui ne sont qu'à 10 000 de l'Estancilla. Après une série de marches fatigantes, à travers un pays montagneux et sans route tracée, nous atteignîmes l'Estancilla, où je comptais enfin trouver la récompense de mes peines. Je demeurai muet de surprise. Le magnifique domaine se réduisait à un fort démantelé qui doit dater de l'occupation française, au lieu de la fertile vallée qu'on m'avait annoncée, des ravins stériles aux rocs tourmentés, dont le fort occupait le point culminant. Violante riait aux larmes de ma mine désappointée. « Entre, me dit-elle, me tutoyant pour la première fois depuis que nous nous connaissions. Tu n'es pas au bout de tes étonnements. » Nous franchîmes un pont-levis. Des portes massives s'ouvrirent comme d'elles-mêmes à notre approche, pour se refermer aussitôt derrière nous. Nous étions dans une vaste cour carrée, où une trentaine de cavaliers armés jusqu'aux dents contenaient leurs chevaux, comme s'ils eussent été prêts à partir en expédition. À la vue de ces hommes aux faces patibulaires, le voile de l'illusion se déchira. La vérité m'apparut. J'avais été odieusement berné. C'est dans un repère de voleurs de grand chemin que j'apportais les 2 millions de dollars que j'avais volés moi-même. Tout s'écroulait autour de moi. Je faillis m'évanouir de saisissement. Au centre de la troupe, dont il était sans doute le chef, se tenait un cavalier, dont le sombrero et les zarapes étaient galonnés et brodés d'or. Deux énormes Brownings à pommeau d'argent étaient passés dans sa ceinture, et sa selle était couverte en peau de jaguar. Gros et robuste, le teint basané, le visage très régulier, orné de 2 longues et fines moustaches noires, ce personnage ne manquait pas d'allure. C'est vers lui que, sans plus se préoccuper de moi que si je n'avais jamais existé, Violante dirigea son cheval. Puis, se haussant sur ses étriers, elle embrassa l'homme à pleine bouche, avec une sorte de gloutonnerie passionnée. « Me voilà, mon Pedrillo adoré, » murmurait-elle, en l'étreignant ardemment dans ses bras. « Âme de mon cœur, que je suis heureuse, trésor de ma vie, je ne te quitterai plus jamais, même pour un seul jour. » Et comme Pedrillo ne répondait qu'avec une certaine nonchalance à ses brûlantes caresses, elle jeta un regard brillant de jalousie vers 3 ou 4 femmes assez jolies qui se trouvaient mêlées aux cavaliers. « M'as-tu gardé ton cœur, au moins, pendant ma longue absence » fit-elle. « Ah, si je croyais que tu eusses commis, même par la pensée, un péché contre notre amour, je crois que je t'arracherais les cheveux avec mes ongles. »« As-tu réussi » demanda-t-il. « Oui, » dit-elle orgueilleusement, en me montrant du doigt. « J'ai accompli ce tour de force que tu croyais impossible. Le Yankee est là avec ses dollars. Regarde s'il ne fait pas une mine à mourir de rire. » J'étais fou de rage de m'être si sottement laissé berner. Le sang m'aveuglait. Je pris mon Browning et je tirai en visant la tête. Avec le plus beau sang-froid du monde, elle fit faire un écart à son cheval. Ma balle effleura le bord de son léger panama et alla s'aplatir sur le mur. Violante n'était nullement émue. « Voilà l'homme que j'aime, » me cria-t-elle. « Le général Pedro Estrada, qui, grâce à tes dollars, sera bientôt dictateur du Mexique. Avant un mois, nous aurons fait un pronunciamento et levé un corps d'armée. Tu seras toujours mon adoré, » murmura-t-il, flatté dans son amour-propre par cette démonstration passionnée. Je constatai alors que Violante me détestait de toute la puissance de son ingratitude. « As-tu donc pensé, » me cria-t-elle, avec sa moue la plus dédaigneuse, « qu'un homme comme toi pourrait jamais devenir mon mari ? Oserais-tu te comparer à Pedrillo ? Lui, il tient la campagne avec ses soldats et il prend noblement partout ce dont il a besoin, comme cela est permis en temps de guerre. Toi, tu n'es qu'un voleur de l'argent qui t'était confié, et je t'ai justement puni. » Cette fois, c'en était trop. Je t'ai insulté et bafoué après avoir été dépouillé. J'étais fou de rage. Mes mains tremblaient. J'ajoutais de nouveau l'aventurière, bien décidé cette fois à ne pas la manquer. Mais avant que j'eusse eu le temps de tirer, un lasso siffla à mes oreilles et je me sentis les bras entravés, et je fus brutalement arraché de ma selle avec une rapidité qui ne me donna pas le temps de réfléchir. Mon Browning avait roulé à terre. Les bandits riaient aux éclats. Celui qui m'avait si adroitement cueilli tirait sur son lasso de toutes ses forces, me forçant à raboter de mon dos le pavé de la cour. J'eus bientôt les mains et le visage en sang. Pendant quelques minutes, je servis de jouet à cette canaille. « En voilà assez !» dit enfin Pedro Estrada. « Planquez-le dehors, et qu'il aille, il voudra. » « Il serait plus prudent de lui casser la tête, » objecta haineusement Violante. « Il a tiré sur moi. Puis il peut nous dénoncer. »« Lui ?» fit le général avec un gros rire. « Et à qui ? Ce n'est toujours pas au consul des États-Unis. Ouste, vous autres ! Débarrassez-moi de ce coquin. Je l'ai assez vu. » Il ajouta très haut, certainement exprès pour que je l'entendisse. « Viens, ma belle Violante. Tu m'aideras à porter les banknotes dans la cave de bronze. Nous allons compter nos richesses. » Non sans avoir reçu quelques orions, je me retrouvai en dehors du pont-levis. Mais dans quel pitoyable état! J'étais meurtri, désespéré, conspué même, par les bandits, et de plus, sans un sou en poche. J'avais eu la présence d'esprit de ramasser mon Browning, mais c'est tout ce qui me restait. En me délivrant du lasso, un des soldats de Pedro Estrada m'avait subtilement allégé de mon portefeuille, et un autre avait raflé toute la menue monnaie que j'avais en poche. Je délibérais si je ne ferais pas mieux de me sauter la cervelle, tout de suite, pour en finir. Pourtant, je me raidis contre cette faiblesse, et clopin clopant, je me mis en route à l'aventure. Je crois que j'aurais fait pitié à Violante elle-même. Il était écrit, cependant, que je devais revoir une fois encore le général Pedro Estrada. Le soir de cette néfaste journée, j'avais trouvé l'hospitalité dans la hutte d'un péon indien. Mais le lendemain, j'étais si courbattu, si déprimé, que c'est à peine si je pus parcourir quelques milles. Je m'étais arrêté pour me reposer dans un petit bois de cyprès quand un grand bruit de chevaux parvint à mes oreilles. Je me dissimulai promptement derrière un buisson et bien m'en pris. Pedro Estrada et une douzaine de ses hommes passèrent à quelques pas de moi. Quelle ne fut pas ma surprise en reconnaissant au milieu d'eux, garrotté sur le cheval qu'il montait, l'ancien sous-directeur de la succursale de Presidio, le Belge Gérard Perquin, le fiancé de Liliane. « Que vous avez tenté de faire assassiner ?» dit sévèrement John Jarvis. Ned Markham baissa la tête. « Le malheureux Gérard, » reprit le détective avec tristesse. « Une fatalité semble le poursuivre. Je savais qu'il était au Mexique, mais j'ignorais ce qu'il était devenu. J'ai appris par une lettre de M. Robinson que, sitôt qu'il a été capable de se lever, il est parti pour Mexico, après avoir juré à Miss Liliane qu'il retrouverait les millions volés ou périrait à la tâche. » Markham, votre fille ne méritait pas d'avoir un tel père. Quand elle a connu votre crime et votre fuite, elle a exigé que M. Robinson prenne hypothèque sur tous ses biens, et comme le total de 2 millions de dollars n'était pas encore atteint, Gérard s'est engagé à parfaire la somme. Ils sont encore fiancés, mais Miss Liliane, toujours en deuil, ne sort jamais, bien que la population de Presidio lui témoigne le plus grand respect. Pourra-t-elle jamais me pardonner ? Balbutia Markham avec accablement. « Si vous essayez sincèrement de réparer le mal que vous avez fait, » dit gravement le détective, « je vous promets que je vous aiderai. » À ce moment, Bernardillo, la sieste terminée, se relevait en bâillant et se dirigeait vers John Jarvis. Celui-ci mit un doigt sur ses lèvres. « Pas un mot, » dit-il à l'oreille de Markham. « Il est inutile que l'on sache qui vous êtes. Les coureurs de prairies dans le genre de Bernardillo sont presque toujours en excellent terme avec les bandits. » La chaleur était maintenant devenue supportable. La petite expédition se remit en route, seulement le détective avait modifié son itinéraire. On allait maintenant se diriger à marche forcée vers le Placer de Santa Maria, propriété de la Mexican Mining Bank, qui n'était située qu'à quelques milles du fort de l'Estancilla, où se trouvait à la fois le fiancé de Miss Liliane et les millions volés. Chapitre 3. La cave de bronze. Avec ses montagnes géantes aux profondes vallées, le Mexique offre une prodigieuse variété de couches géologiques. Dans cette terre embrasée par les volcans, secouée par les tremblements de terre, on découvre des gisements de métaux précieux et de minéraux rares, d'une diversité et d'une richesse infinie. L'or, l'argent, le platine, le mercure, le cuivre, s'y rencontrent aussi bien que les rubis, les émeraudes et les topazes. Quoique ces trésors soient défendus par des marécages pestilentiels, des déserts, des montagnes infranchissables, de tout temps on s'est battu pour leur possession, et cette généreuse terre mexicaine, le plus beau jardin du monde, comme l'a appelé un poète espagnol, a été largement arrosée de sang. Aujourd'hui,
la lutte se continue sous d'autres formes. Malgré leur ténacité, leur furieuse bravoure, dès qu'il s'agit de conquérir des dollars, les Américains ont été de longues années avant d'entamer ce pays mystérieux et fermé, replié en lui-même, et qui n'avait guère changé depuis Fernand Cortés. Actuellement, ils y possèdent des chemins de fer et des mines, concurrencés en cela par les Anglais et les Allemands, et chaque année, l'œuvre de pénétration se poursuit avec persévérance. Demain, c'est au Mexique, où l'on a découvert les plus riches sources du monde, que se livrera la grande bataille pour le pétrole, qui, de plus en plus, deviendra le grand et peut-être l'unique combustible industriel. Déjà, les trois peuples impérialistes prennent position, achetant fiévreusement des terrains, sollicitant des concessions des éphémères dictateurs de ce pays, où règne en permanence la guerre civile. Dans un rayon de 10 000 autour de l'Estancilla, il n'y avait pas moins de 4 exploitations minières, 2 anglaises, une américaine, la mine d'or de la Mexican Mining Bank, et une allemande, dont les concessionnaires opéraient des sondages pour la recherche du pétrole. Ce dernier établissement, encore à ses débuts, ne comprenait que quelques hangars au-dessus desquels s'élevaient les échafaudages du Derrick, ou superstructure des puits de sondage, construite au fond d'une vallée de la Cordillère, que bordaient de toutes parts des rochers abrupts. C'est vers ces bâtiments où brillaient encore quelques lumières, qu'un peu avant minuit, se dirigeait à bride abattue une amazone montée sur une superbe jument de race andalouse. Sans modérer son allure, elle franchissait insoucieusement les ravins, les cours d'eau et les rochers, suivait parfois des sentiers qui côtoyaient des gouffres. Le ciel était d'un bleu profond, d'une douceur de velours, où les étoiles luisaient comme une poussière de diamants, répandant sur le paysage tourmenté une lueur argentée infiniment mystérieuse. Dans ce décor de silence et de sérénité, l'Amazone passait comme un ouragan. Elle fit halte à 2 pas de la palissade qui entourait les bâtiments, sauta en bas de sa jument baignée de sueur et tira la corde d'une cloche. Des abois de chiens retentirent. Il y eut un va-et-vient de lumières à l'intérieur et un homme qu'escortait de grands dogues d'ulmes parut à la barrière à claire-voix.
« Que t'essirez-vous » demanda-t-il à la visiteuse, en espagnol, mais avec un fort accent allemand. « Il faut que je voie tout de suite le seigneur ingénieur, » répondit-elle avec impatience. « Je suis Doña Violante Alvaredo. »
L'homme ouvrit aussitôt la barrière et introduisit la jeune femme dans une pièce au mur nu, uniquement meublée de tables et d'escabeaux de bois blanc et qu'éclairait d'une vive lueur une lampe à acétylène. Quand Violante entra, l'ingénieur était fort occupé à coller des étiquettes, portant chacune un chiffre et une annotation, sur 2 petits flacons remplis d'un liquide brun ou verdâtre, qui était du pétrole brut. Sur une autre table, des spécimens des couches traversées par la sonde étaient méthodiquement alignés dans 2 petites boîtes plates. Assez corpulent, l'ingénieur paraissait avoir dépassé la 40aine. Sa face carrée, aux mâchoires lourdes, exprimait une énergie puissante, mais brutale. Le front très vaste était surmonté d'une forêt de cheveux roux. Derrière les sourcils pâles, les yeux petits et d'un jaune verdâtre étincelaient d'intelligence et de ruse. « Asseyez-vous, señora, » dit-il en avançant un escabeau à la visiteuse. Celle-ci paraissait trop surexcitée pour accepter cette offre. Essoufflée et rouge, les yeux brillants de fièvre, elle allait et venait par l'étroite pièce. Elle rejeta son manteau et l'ingénieur s'aperçut que son corsage de velours bleu, orné de broderies d'or, était taché de sang. Il y avait aussi un peu de sang sur sa main droite, couverte de bagues de grand prix. Émue, hésitante, en proie sans doute à un violent combat intérieur, elle ne se décidait pas à prendre la parole. Mais l'angoisse se peignait sur ses traits bouleversés, dans ses admirables yeux noirs, d'où les larmes semblaient prêtes à jaillir. « Que se passe-t-il donc, señora ? » demanda enfin l'ingénieur. « Vous paraissez troublée. Jamais je ne vous ai vue ainsi. »«
Je viens de faire une mort, » murmura-t-elle avec un frémissement de tout son corps. « J'ai tué Lorenza, une de ces filles de rien qui vivent à l'Estancilla, avec les hommes que commande Pedro Estrada. »
Et comme son interlocuteur demeurait silencieux,
Je ne te réponds pas, continua-t-elle avec un grondement de colère dans la voix. Je recommencerai au besoin. J'ai surpris cette maudite fille avec Pedrillo. Je lui ai planté mon poignard dans le sein. L'envie me mordait au cœur de le tuer lui aussi. Il m'a fallu toute ma volonté, toute la force de mon amour pour ne pas le faire. Ah, le lâche! Comment a-t-il osé me trahir après ce que j'ai fait pour lui? C'est un homme sans âme, un ingrat!
Violante fondit en larmes. Elle sanglotait et se tordait les mains, tandis que l'ingénieur la considérait avec le sang-froid tranquille d'un savant qui dissèque une plante ou un insecte.
« Il y a longtemps, poursuivait-elle, que je soupçonnais sa trahison. Il se montrait presque froid avec moi. On eût dit qu'il ne m'embrassait que pour remplir une tâche qu'on ne peut éviter. Ah, je n'aurais pas dû quitter l'estancilla. C'est pendant que j'étais à Presidio que cette coquine a dû l'enjôler. Ces derniers temps, c'est à peine s'il avait la pudeur de cacher ses sentiments. Lorenza le suivait partout. Il lui achetait des parures avec l'argent que j'ai gagné, moi, au prix de tant de dangers. Quelle honte !»«
Il me semble que vous ne manquez pas de parures. Vous en avez autant que la Vierge miraculeuse de Cosa Maloapam, qui en possède pour 100 000 piastres et qui, dit-on, rougit de plaisir quand on la porte en procession avec tous ses bijoux.
« Ne vous moquez ni de moi ni de la Vierge, » reprit tristement Violante, en caressant d'un geste machinal le collier de grosses perles et la rivière de diamants qui s'étalait sur sa poitrine décolletée. « Je donnerai toutes ces babioles pour que Pedrillo m'aima comme autrefois. »«
Enfin, que voulez-vous de moi ?» demanda l'ingénieur du ton sec et tranchant de l'homme positif auquel on fait perdre son temps. Violante eut un regard d'une énergie sauvage.
« Vous avez raison, » fit-elle. « Parlons sérieusement. Je veux que vous m'aidiez à reconquérir Pedrillo. »«
Que voulez-vous que je fasse ? » ?»«
Écoutez-moi, cela est triste à dire, mais je ne le tiens que par l'argent. Il faut que vous m'aidiez à faire sortir de l'estancilla les banknotes que j'ai rapportées de Presidio. »
Les petits yeux de l'ingénieur lancèrent un éclair furtif. Sa physionomie se détendit. « Je vais réfléchir, » dit-il. « Puis, » continua-t-elle, un peu calmée, « c'est lui rendre service à Pedrillo. Depuis que cet argent est entré à l'estancilla, c'est une orgie perpétuelle. Les hommes passent la nuit à danser, à boire et à jouer de la guitare. Toute la somme s'en ira en fumée, comme cela est arrivé chaque fois que nous avons fait une prise importante. Je ne le veux pas. Si Pedro Estrada n'est pas ambitieux, il faut que je le sois pour lui. Je me suis juré qu'il serait dictateur, et les banknotes ne doivent pas être employées à autre chose. »
Puis, fit l'ingénieur en baissant la voix, il y a une autre raison pour que l'argent ne reste pas à l'estancilla. Ceux auxquels il appartient vont essayer de le reprendre. Je sais de sources certaines qu'ils sont en ce moment à la mine de Santa Maria, où ils organisent une expédition contre Pedro Estrada.
Qui vous a dit cela?
Vous devez savoir que je suis toujours bien informée. Qui donc vous a donné la marche à suivre dans votre affaire de Presidio? Qui vous a fait acquérir, à vil prix, ces terrains que la société que je représente a rachetés à Baudenier Content? Qui vous a maintes fois prévenu, quand il y avait une bonne capture à faire, ou quand les troupes régulières se préparaient à vous donner la chasse? Convenez que je me suis toujours montré votre ami, et un ami bien renseigné.
Aussi n'ai-je confiance qu'en vous? C'est ici que je déposerai les banknotes. Je vous sais capable de les défendre.
Oui, mais il ne faudrait pas trop tarder.
Vous allez venir avec moi, cette nuit même, à l'instant. Le moment est propice. Les hommes font bombance. À cette heure-ci, les trois quarts d'entre eux dorment déjà, assommés par le pulque et l'eau de vie de canne.
Mais Pedro Estrada?
Il est parti comme un fou, à Franquetrier, chercher un médecin pour la Lorenza, qui n'était pas encore tout à fait morte.
Je crains bien, ajouta-t-elle avec un sourire féroce, qu'il ne la trouve pas vivante quand il rentrera.
Nous allons partir de suite. Vous savez comment ouvrir la cave de bronze?
Oui, j'ai le double de la clé de la porte, et je sais le mot de la combinaison.
Pedrillo n'a pas osé me les retirer.
Pendant la dernière partie de cette conversation, l'ingénieur s'était armé, avait jeté un manteau sur ses épaules et s'était coiffé d'un sombrero. Il se fit amener son cheval par un péon et bientôt il galopa aux côtés de Violante par les chemins raboteux qui conduisaient à l'estancilla. Ils en étaient encore à une certaine distance lorsque le son des guitares leur arriva porté par la brise. En même temps, ils constatèrent que les fenêtres de l'ancien fort étaient brillamment illuminées.
« Voilà ce qu'ils font toute la nuit !» murmura Violante avec mépris. « Ils ne sont guère bons à autre chose !»
À mesure que la jeune femme et son compagnon se rapprochaient, ils discernaient plus distinctement le vacarme des cris, des rires et des chansons. Ils arrivèrent près du pont-levis qui était abaissé.
« C'est parfait !» s'écria Violante quand ils eurent franchi la porte qu'ils trouvèrent entrebâillée. « Personne n'est là pour surveiller les allants et les venants. Les gardiens sont ivres morts. »
« Ah, tant mieux pour nous !» ricana l'ingénieur.
La cour était déserte. Seule, une douzaine d'ivrognes dormaient au clair de lune, sur la pierre nue, en chantonnant encore dans leur sommeil quelques vagues refrains.
« Ils mériteraient que les Yankees viennent cette nuit et les égorgent jusqu'au dernier !» s'écria Violante indignée.
« C'est qu'il n'y aurait rien d'impossible à cela !» grommela son compagnon, dont le front se rembrunit.
« Attendons, il faut aller vite en besogne !»
Tous deux allèrent attacher leurs chevaux sous un hangar où s'en trouvait déjà un grand nombre d'autres. Et, se faufilant le long des murs, gagnèrent le fond de la cour, en évitant de passer près de la salle d'où s'élevait le tumulte de l'orgie. Ils étaient arrivés devant une porte basse, lorsque Violante se retourna comme hésitante.
« Avant tout, fit-elle, j'ai bien envie d'aller voir si la Lorenza finit de mourir.
Pourquoi ?
Parce que, murmura-t-elle avec un sourire féroce, si par hasard elle était encore vivante, je mettrais bon ordre à cela.
Je ne vous savais pas si cruelle, répliqua l'ingénieur avec une sourde colère.
Ne vous occupez pas de cette fille. Je vous déclare que je renonce à vous aider si vous ne voulez pas suivre mes conseils.
Soit, déclara la jeune femme haineusement, j'irai voir la Lorenza un peu plus tard. Elle ouvrit la porte où aboutissaient les dernières marches d'un large escalier de pierre aux marches branlantes. Ils descendirent avec précaution à la clarté d'une petite lampe électrique que tenait Violante. Après avoir compté 30 marches, ils se trouvèrent dans une galerie creusée dans le roc sur lequel le fort était construit.
« Voici l'entrée de la cave de bronze !»
déclara Violante, en montrant l'extrémité de la galerie où, sur la teinte bleuâtre du granit, se découpait un rectangle d'une éblouissante couleur verte.
« Qui diable a eu l'idée d'une semblable installation ?» demanda l'ingénieur avec surprise. « Cela coûterait aujourd'hui une somme folle. »
La cave de bronze remonte peut-être au temps de Cortés. C'est là qu'on serra les sacs de poudre d'or et les barres d'argent, avec laquelle les Indiens payaient l'impôt aux conquistadors. Plus tard, les Français la transformèrent en poudrière. Enfin, Pedrillo a fait adapter à la porte par un serrurier de Mexico le mécanisme d'un coffre-fort moderne. Et il s'était approché. Violante manœuvra rapidement les boutons de métal qui commandaient la serrure.
« Quel est le mot ? » demanda-t-il.
« Je n'ai pas le droit de vous le dire. D'ailleurs, que vous importe, puisque nous prendrons tout. »
« C'est juste, » fit-il avec dépit.
La porte s'était entrebâillée, mais elle était si massive qu'ils durent réunir leurs efforts pour l'ouvrir entièrement. La clarté de la lampe électrique montrait les parois, du même vert éclatant que la porte, d'une chambre de 10 à 12 mètres de longueur sur 4 de largeur. Il n'y avait aucun soupirail, aucune prise d'air, aucune ouverture vers l'extérieur. Et il s'exhalait de ce réduit une amère et nauséeuse odeur de vert de gris. Violante et son compagnon se reculèrent, chassés par ce souffle pestilentiel. Ils apercevaient au fond du souterrain la valise qui renfermait les banknotes et, à côté, un tas régulier d'objets brillants. Pendant qu'ils attendaient que l'air se fût renouvelé dans l'intérieur de la chambre de bronze, afin de pouvoir y pénétrer sans danger, ils demeurèrent silencieux. Le chant des guitares, assourdi par l'épaisseur des voûtes, leur arrivait vague et loin comme dans un rêve. Ils se sentaient envahis par une étrange émotion que nul des deux n'eût voulu avouer à l'autre.
Tout à coup, l'ingénieur tressaillit.
Il avait cru entendre le bruit étouffé d'un gémissement.
« Est-ce que je déraisonne ? » balbutia-t-il. « Il m'a semblé... »«
Ne faites pas attention à cela, » répondit-elle. « Il y a quelques prisonniers dans les cachots. »
De la main, elle lui montrait plusieurs portes situées à droite et à gauche de la galerie, qu'il n'avait pas remarquées en arrivant, car le bois et la pierre, envahis par les moisissures, se confondaient dans une même teinte.
« Il faut en finir, » ajouta-t-elle. « J'ai hâte d'être sortie d'ici. »
Elle alla jusqu'au fond de la chambre de bronze et souleva la valise.
« Qu'est-ce qui brille là-bas » demanda-t-il.
« Ce sont des lingots d'or, la réserve de Pedro Estrada.
Nous allons les emporter, je suppose.
Non, c'est impossible. Pedrillo m'a défendu d'y toucher sous peine de grand malheur. Je lui ai juré de ne jamais essayer de les prendre.
« Oh, vous êtes vraiment naïve, » ricana-t-il.
« Vous croyez tout ce qu'on vous dit? Le malheur sera pour lui de ne plus trouver ses lingots. Allons, passez-les-moi. Ils seront mieux entre nos mains qu'entre les siennes. »
Après une seconde d'hésitation, la jeune femme obéit et remit à l'ingénieur une barre d'or de la forme et de la grosseur d'une brique. Elle retourna en chercher une seconde qu'elle lui donna comme la première. Mais au moment où elle soulevait la troisième, un déclenchement se produisit et la porte de bronze se referma rapidement avec le bruit d'un coup de canon dont les voûtes du souterrain répercutèrent longtemps le grondement solennel. L'ingénieur demeura immobile, si troublé qu'il laissa tomber sa lampe électrique qui s'éteignit. Il trébuchait dans les ténèbres, tâtonnant pour trouver l'escalier, si ému qu'il ne songeait même pas aux deux lingots qu'il avait déposés à terre.
« Elle est perdue !» bégaya-t-il en claquant des dents. « Pourquoi n'a-t-elle pas voulu me dire le mot ?»
Un frisson d'épouvante lui descendait le long de l'échine lorsque tout à coup jaillit des portes refermées un hurlement de bête qu'on égorge, un appel déchirant qui n'avait plus rien d'humain et la sonorité du métal dont les vibrations se répercutaient avec une lenteur majestueuse comme celle des cloches amplifiait de façon terrifiante ses accents douloureux. Se cognant aux murailles, l'ingénieur s'en fut à moitié fou et ses pieds se heurtèrent contre les premières marches de l'escalier. Il lui semblait qu'il était poursuivi par les râles d'agonie de la misérable Violante, scellée toute vide dans le sépulcre de bronze à l'atmosphère vénéneuse. Il gravit quelques marches, le visage baigné d'une sueur glacée, puis s'arrêta une seconde. Le cœur gonflé par une intolérable angoisse, il constatait que l'horrible clameur, qu'il avait remuée dans toutes les fibres de son être, allait déjà en diminuant, se muait en un gémissement ininterrompu comme le grondement d'un gong.
« Il faut pourtant que je redescende !» se cria-t-il à lui-même.
Farouchement, il revint sur ses pas, et à quatre pattes, sur le visqueux, il chercha sa lampe. Les mains tendues, il explorait les ténèbres, s'efforçant au sang-froid. Pendant 10 minutes mortelles, il tâtonna au hasard. Enfin, il trouva ce qu'il voulait. La voix de la moribonde, cette voix qui semblait venir de l'autre côté du tombeau, s'était tue brusquement. Dans un milieu hermétiquement isolé de l'air extérieur, l'asphyxie accomplit son œuvre avec une rapidité foudroyante. Violante était sans doute déjà morte ou tout au moins évanouie. Ce funèbre silence parut à l'ingénieur aussi terrible à supporter que les cris déchirants qui retentissaient quelques instants auparavant. Il venait de ramasser précipitamment les deux lingots et se préparait à quitter ce lieu de désolation lorsqu'une inquiétude lui vint. Il gratta le métal avec son couteau. Le cuivre apparut sous la mince couche d'or. Il rejeta les lingots, furieux de la déconvenue. Il remarqua alors que sur l'éclatant fond vert de la porte de bronze, on avait grossièrement dessiné une tête de mort suivie du chiffre 3. « Il aurait fallu, songea-t-il, comprendre cet avertissement ou cette menace énigmatique. Pedro Estrada est sans doute le seul à savoir qu'en déplaçant le troisième lingot, on déclenche le mécanisme de la fermeture. » Maintenant qu'il avait surmonté sa peur d'un instant et maté ses nerfs, l'ingénieur demeurait exaspéré de cette expédition manquée. « Allons-nous-en » grommela-t-il. Il se rapprocha de l'escalier, mais au moment où il allait s'y engager, un homme apparut au haut des marches. Au rayon de la lune, sa silhouette se détachait en vigueur sur le cadre de la porte qui aboutissait à la cour et qui était demeurée ouverte. L'ingénieur étouffa un juron. La retraite lui était coupée par le nouveau venu, dans lequel il crut reconnaître Pedro Estrada. Il n'eut que le temps d'éteindre sa lampe et de se rejeter en arrière. Il laissa l'inconnu, qui était muni d'une petite lanterne sourde, descendre tranquillement. Mais au moment où il mettait le pied sur le sol de la galerie, il lui brûla la cervelle, presque à bout portant, avec son Browning. La minute d'après, il s'élançait vers le hangar où il avait attaché son cheval, montait en selle et franchissait au galop la porte de l'estancilla. Et il n'en était pas éloigné de plus de 500 mètres quand un homme se dressa devant lui en lui intimant l'ordre de faire halte. Pour toute réponse, il déchargea son Browning
dans la direction de celui qui lui barrait le passage, et enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval. Des coups de feu éclatèrent. Plusieurs balles traversèrent son manteau et blessèrent son cheval. Une autre lui enleva son feutre. La lune, un instant voilée par un nuage, se dégageait, éblouissante. Les traits du fugitif apparurent en pleine lumière.
« Klaus Christian !» cria une voix dans la nuit. « Nous nous reverrons, Todd Marvel !»
répondit le docteur avec un ricanement. Au milieu de la grêle de projectiles, qui continuait à siffler à ses oreilles, le bandit enleva son cheval et d'un bond lui fit franchir une large crevasse, ce qui rendait toute poursuite inutile. Les ouvriers de la mine d'or de Santa Maria, que le détective avait armés pour faire le siège de l'Estancilla, sortaient maintenant de derrière les rochers et les buissons où ils s'étaient mis en embuscade. Grâce à l'obscurité, grâce aussi à la négligence des bandits, ils avaient peu à peu cerné la petite forteresse.
« Je suis allé jusque dans la cour intérieure, » déclara Floridor. « Est inutile de nous cacher maintenant. Les portes sont ouvertes, elles pont le via baisser. Personne ne fera résistance. »
Eden Markham est entré dans l'estancilla. Elle n'en est pas sortie. Je crains qu'il se soit laissé surprendre. Nous allons bien voir. » D'un coup de sifflet, Todd Marvel rassembla ses hommes. Ils étaient au nombre d'une centaine, tous résolus et bien armés. L'estancilla fut sur le champ occupée sans coup férir. Ceux des bandits, qui n'étaient pas complètement ivres, furent capturés avant d'avoir eu le temps de faire usage de leurs armes. Mais on ne put découvrir ni Violante, ni Pedro Estrada. Les prisonniers interrogés déclarèrent que le général et son ami avaient isolément quitté le fort, dans le courant de la soirée.
« Je crains bien que nous arrivions trop tard, » dit le détective. « L'intervention de Klaus Christian dans cette affaire ne me dit rien de bon. Puis Markham a disparu. »
« Je crois pas qu'il nous ait trahis. En tout cas, nous ne pouvons porter aucun jugement avant d'avoir visité la cave de bronze. » Ils en découvrirent sans peine l'emplacement et descendirent. Floridor, qui marchait le premier, armé d'une torche de résine, arrivait au bas de l'escalier lorsqu'il se trouva en face d'un cadavre qui gisait au milieu d'une mare de sang. Il reconnut Ned Markham.
« Le malheureux » murmura-t-il. « A-t-il sûrement expié son crime ?
Il vaut mieux peut-être qu'il en ait été ainsi. »
« Ce serait sans doute plus tard pour Miss Lillian un adoucissement à ses peines d'apprendre que son père, avant de mourir, a essayé de réparer le mal qu'il avait fait. »
Ce fut là toute l'oraison funèbre du voleur de banknotes. Après avoir retrouvé, non sans surprise, les deux lingots de cuivre doré rejetés par Klaus Christian, Todd Marvel et Floridor étaient arrivés à la porte de bronze. Ils comprirent du premier coup que la dynamite seule pourrait avoir raison d'une pareille fermeture. Les mineurs de Santa Maria avaient heureusement apporté une certaine quantité d'explosifs pour le cas où l'on eût été forcé de pratiquer une brèche. On s'occupa sans perdre de temps d'installer un fourneau de mine sous le seuil de la cave. On avait d'autant plus de raison de se hâter qu'un retour offensif de Klaus Christian et des travailleurs de la concession allemande placés sous ses ordres n'était pas impossible. Les préparatifs étaient terminés et Floridor venait de mettre le feu au cordon Bickford qui devait provoquer l'explosion, lorsque le vieux mineur, qui l'avait aidé, attira son attention.
« Il me semble qu'on a appelé ici tout près, » fit-il.
« Je n'ai rien entendu, » dit le Canadien en haussant les épaules.
« C'était une voix très faible.
Te trompe, tes oreilles ont teinté. Allons-nous-en. » Ils s'éloignèrent précipitamment, quand tout à coup, Floridor se frappa le front. Il revint précipitamment sur ses pas et écrasa sous son talon la mèche qui continuait à brûler.
« Mon Dieu, qu'allais-je faire ? » balbutia-t-il. « Tu ne t'étais pas trompé. Il y a un prisonnier ici. Vio totalement oublié le fiancé de Miss Lillian, Gérard Perkin.
Quelques minutes de plus, et s'en était fait de lui.
« Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé plus tôt ?» grommela le vieux mineur.
La porte fut enfoncée d'un coup d'épaule par Floridor, et l'on tira le malheureux Belge du réduit où il gisait sur un peu de paille pourrie. Il était si affaibli qu'il paraissait hors d'état de se tenir debout. Il fut transporté dans la cour avec précaution. Il parut respirer avec délice l'air pur de la montagne, et une faible rougeur colora presque aussitôt ses joues amaigries. Sur l'ordre de Todd Marvel, on le coucha dans un hamac de fibres d'aloès, et, en attendant qu'il fût assez fort pour pouvoir supporter des aliments plus solides, on lui fit boire quelques gorgées de vin d'Espagne. Au bout d'une demi-heure de soins, bien qu'encore très faible, il était en état de remercier ses sauveurs et de leur donner les renseignements qu'ils attendaient avec impatience. Grâce au signalement et aux photographies de Violante et de Markham dont il était muni, il avait pu les suivre à la piste jusqu'à l'Estancilla. Il se rendait à la mine de Santa Maria pour y chercher du renfort, quand, signalés à ses ennemis par Klaus Christian, il avait été pris par eux et jeté dans un cachot fétide où les bandits oubliaient souvent de lui apporter à manger. Il avait entendu tout ce que s'étaient dit Klaus Christian et Violante Alvaredo. Mais quand les portes de bronze s'étaient refermées avec un bruit de tonnerre, ses nerfs déjà ébranlés n'avaient pu résister à une pareille commotion. Il s'était évanoui. Il commençait à peine à revenir à lui quand le mot de dynamite avait frappé ses oreilles. C'était miracle qu'il eût eu la force de pousser le faible cri d'appel que le vieux mineur avait entendu. Ce récit fut interrompu par une violente détonation. Le fort trembla dans ses fondations. Un rugissement souterrain sembla s'élever des assises de la montagne. Les portes de la cave de bronze venaient de sauter. Les banknotes furent retrouvées intactes à côté du cadavre de Violante, dont le visage noirci et marbré de taches violettes gardait pourtant, dans la mort, une tragique beauté. Son agonie dans la cave de bronze avait dû être terrible. Son immense chevelure, toute dénouée et souillée de vert-de-gris, était éparse autour d'elle. Ses ongles étaient arrachés et des larmes de sang gouttelaient de ses prunelles. Son dernier geste avait été pour tracer le nom de Pedrillo d'un doigt défaillant sur l'éblouissante couche verte d'oxyde de cuivre qui recouvrait les parois de la chambre.